Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Europe 1, jeudi 29 avril 2021. Le monde a changé, on va vous le raconter. Une découverte ce matin à 7h40, découverte d'un monde assez fascinant, quoique un peu austère, celui des échecs. Est-ce que vous jouez aux échecs, Théo Manval, Laurent Cabrol?
Pas vraiment.
Non, pas plus que ça. Je vois que Marion Calais est déjà avec nous. Non, personne. Bah, on va découvrir tous ensemble. Les fans auront reconnu la musique de la série Phénomène, le jeu de la dame, c'est la série Netflix. Personne ne joue aux échecs ici. Je joue tout
en
seul.
En amateur.
Je vais devoir jouer tout seul.
Série
qui, combinée au confinement et au couvre-feu, a remis l'échiquier au goût du jour. C'est un invité de marque que je reçois tout à l'heure. Il s'appelle Maxime Vachier-Lagrave. Et on dit de lui simplement que c'est le meilleur français de tous les temps. Grand maître international à 14 ans, il en a 30 aujourd'hui, il vise le sommet mondial, il va nous parler de ce qui rend ce jeu si spécial. Écoutez, tiens, cette archive Europe 1 de 1996, Jean-Bernard Cadier aux États-Unis.
À ma gauche, Garry Kasparov, 32 ans, l'un des meilleurs joueurs d'échecs au monde. À ma droite, Deep Blue, l'ordinateur le plus puissant, jamais mis au point par IBM pour ce genre d'exercice. Il peut prévoir la partie 40 coups à l'avance.
Et j'ai envie de lui poser cette question, celle de l'intelligence artificielle. Un quart de siècle après, est-ce que la machine a complètement supplanté l'homme? Le jeu d'échecs au menu du tête-à-tête Europe Matin tout à l'heure, ce sera à 7h40. Bon, Laurent Cabrol, il joue pas aux échecs, il faut pas qu'il joue de l'argent non plus, il m'avait dit 2-0 pour Paris hier. Bon. Je vous laisse, Laurent, c'est l'heure de la météo.
J'avais dit qu'il pleuvrait quand même deux fois.
Ça, c'est vrai, ça c'est arrivé.
Bon, de la pluie aujourd'hui, il y en aura dans le sud-ouest, en Auvergne, sur l'ensemble des régions du sud-est, la Côte d'Azur, la Provence et la Corse. Pourquoi? Et les Alpes aussi, parce que là, nous aurons des orages. Sur le Midi-Pyrénées, l'Aquitaine, les Cévennes, c'est un temps également humide, comme dans la vallée de la Garonne. Bref, la pluie est toujours dans le sud, mais elle commence à grimper maintenant. Elle a commencé déjà hier à venir s'installer un tout petit peu sur les régions septentrionales, et ça ne fait que commencer. Donc nous aurons un ciel voilé sur le Poitou-Charentes, le Limousin, la Bretagne, la Normandie, le centre et la Bourgogne. En région parisienne, il y a de petites pluies, il y en a eu encore ce matin, il y en a encore actuellement, mais un peu de soleil quand même dans la journée, ça va se calmer les pluies. Nord, Picardie, Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, amélioration progressive. Les températures actuelles, pour ceux qui n'ont pas mis l'année dehors, entre 5 et 11 degrés, donc il fait un peu frais, couvrez-vous. Et puis dans la journée, entre 15 et 18.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1, on écoute le monde changer. Il est 7h.
After just 100 days, I can report to the nation, America is on the move again.
Après tout juste 100 jours, je peux le dire, l'Amérique va de nouveau de l'avant. Le discours de Joe Biden devant le Congrès américain cette nuit, il promet des emplois par millions et une réforme de la police. Faut-il élargir la campagne de vaccination? Pas encore, dit le gouvernement, mais la limitation à 55 ans apparaît comme un frein pour certaines professions prioritaires. Dans ce journal aussi, empreinte digitale et coopération avec les pays d'origine, le dispositif de la préfecture de police de Paris pour repérer les faux mineurs isolés parmi les délinquants. Plusieurs autres départements s'y intéressent déjà. Votre dossier à suivre. Et puis, une défaite et des stars décevantes. Le PSG battu 2-1 hier soir en Ligue des Champions par Manchester City. Et justement, c'est l'objet de votre édito sport, Virginie Fulpin.
Oui, une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le PSG tente le football en alternance. Ça n'a pas vraiment marché.
Vincent Hervouet et Stéphane Bern vont nous rejoindre aussi. Juste après ce journal, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Et les GAFA qui ont dégagé des profits faramineux au premier trimestre. Des profits qui leur donnent les moyens de tuer la concurrence. Les États-Unis s'en inquiètent.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. 6 000 milliards de dollars désormais sur la table. La relance par Joe Biden. À l'aube de son 100e jour au pouvoir, le président américain s'est exprimé cette nuit devant le Congrès. Un discours que vous avez suivi pour Europe 1. Alexis Guilleux, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Le locataire de la Maison Blanche a dévoilé le troisième volet de son plan d'investissement, plan de 1 800 milliards de dollars destiné à réduire les inégalités.
Oui, un plan pour améliorer l'accès à l'éducation, élargir l'aide à l'enfance. L'investissement d'une génération, dit Joe Biden, nous devons faire mieux que reconstruire, nous devons reconstruire mieux. Le président reprend ici le slogan de sa campagne, Build Back Better. Cela passe donc par la justice sociale et par des emplois. À ce sujet, Joe Biden loue son projet sur les infrastructures, le plus grand plan pour l'emploi depuis la Seconde Guerre mondiale, dit-il, modernisation des routes, des ponts et la transition vers une économie plus verte, qui doit créer des emplois en faveur de la classe moyenne. Pendant trop longtemps, nous n'avons pas utilisé le mot le plus important quand on parle de faire face à la crise climatique, l'emploi, l'emploi. Et il n'y a aucune raison pour que les pales des éoliennes ne soient pas fabriquées à Pittsburgh plutôt qu'à Pékin, ajoute Joe Biden.
Joe Biden qui a également demandé au Congrès de passer à l'action sur plusieurs sujets de société qui ont agité l'Amérique ces derniers mois.
Oui, à commencer par le projet de réforme de la police qui porte le nom de George Floyd. Joe Biden demande au Congrès d'avoir le courage d'agir pour faire passer ce texte d'ici le premier anniversaire de la mort de George Floyd, le 25 mai prochain, pour rebâtir la confiance entre la police et la population. Et sur ce sujet, Joe Biden a besoin de voix républicaines, idem pour son projet de contrôle des armes à feu ou encore sur l'immigration. Le président a résumé sa pensée par une formule. Agir, discutons, débattons, mais agissons. C'est ce qu'il faut retenir de ce discours. C'est la tonalité, l'optimisme de Joe Biden. Il a conclu en disant qu'il n'a jamais autant eu confiance en l'Amérique.
Alexis Guillot en direct de New York pour Europe 1. Le président américain qui a également estimé que la campagne de vaccination, 220 millions de doses administrées en 100 jours, est un des plus grands succès logistiques de l'histoire américaine.
La vaccination en France, à présent calendrier maintenu par le gouvernement, malgré des appels pressants à élargir les publics cibles. Le maire de Cannes, par exemple, a décidé d'autoriser les injections dès 40 ans.
Et il faut dire que pour certaines professions prioritaires, la limite d'âge à 55 ans n'aide pas. Illustration avec les personnels de la deuxième ligne, livreurs, chauffeurs de bus ou caissiers. S'ils peuvent se faire vacciner en priorité depuis une semaine, dans les faits, Carole Ferry, ils ne se bousculent pas pour prendre rendez-vous.
Effectivement, ces accès prioritaires ne sont pas vraiment pris d'assaut. Déjà parce que les professionnels concernés ont essentiellement droit au vaccin AstraZeneca qui suscite quelques réticences, selon le président de la Fédération nationale des taxis, Didier Augrel.
On a l'impression, nous les taxis, qu'on est en train d'essayer d'écluser les stocks de produits qui n'arrivent plus à se vendre. Voilà. Et donc, il y a des taxis qui rentrent dans les conditions de vaccination, mais qui ne voudront malgré tout pas se faire vacciner parce que c'est l'AstraZeneca.
Inversement, des plus jeunes sont prêts à se faire vacciner, quel que soit le vaccin, sauf qu'ils n'ont pas le droit. Une situation qui agace, en particulier dans les métiers qui embauchent essentiellement des salariés de moins de 55 ans. C'est le cas par exemple des déménageurs, des agents de caisse ou encore des pompes funèbres. Écoutez la déléguée générale de la Fédération nationale, Florence Fraisse.
80% de nos personnels ont moins de 55 ans. Il y a un vrai risque. Nous rentrons dans des domiciles de personnes qui sont décédées du Covid. Nous rentrons dans des EHPAD et dans des hôpitaux. Nous devrions être intégrés à la première ligne, pas comme des travailleurs de deuxième ligne.
Elle réclame donc que la vaccination soit autorisée, quel que soit l'âge, pour ces métiers à risque.
Carole Ferry.
7h06 sur Europe 1. C'est un phénomène qui s'est temps. Selon la préfecture de police de Paris, la délinquance attribuée aux mineurs non accompagnés du Maghreb a augmenté de 20% entre 2019 et 2020. Un phénomène qui met les autorités au défi.
Oui, car si ces mineurs isolés représenteraient près de 30% des interpellés pour vol à la tire, vol avec violence et cambriolage, encore faut-il s'assurer qu'ils sont bien mineurs à Marion Dubreuil.
Exactement. Le problème de ces chiffres, c'est qu'ils reposent sur du déclaratif. Les suspects n'ont pas de papier d'identité, ils donnent souvent des alias et se disent mineurs pour éviter une sanction pénale plus sévère et ne pas faire l'objet de mesures d'éloignement. Jusque-là, les services de police étaient démunis. Ils pouvaient parfois s'appuyer sur des examens osseux demandés par la justice, mais ils ne disposaient d'aucun moyen infaillible pour établir l'identité et donc l'âge des mises en cause. Depuis un an et demi, Valérie Martineau, à la tête de la direction de la sûreté de proximité de l'agglomération parisienne, expérimente un dispositif qui repose sur les empreintes digitales des suspects.
On envoie les empreintes mises en format international via la direction centrale de la police judiciaire. Ces empreintes sont donc ensuite transférées via nos attachés de sécurité intérieure dans les pays du Maghreb qui demandent aux autorités locales une consultation de leur base de données.
Sauf que ce processus, Marion, il prend du temps. Le retour n'est pas immédiat.
Non, ce n'est jamais dans le temps de la garde à vue. Cela prend environ 1 à 2 mois. Pour le moment, 1122 demandes ont été transmises aux autorités algériennes, marocaines et tunisiennes pour 256 retours. Et pour l'écrasante majorité, à 95%, ce sont des majeurs. La commissaire divisionnaire Valérie Martineau estime que ce dispositif permet aujourd'hui de faire aboutir 2 à 3 procédures judiciaires par semaine.
Comme ce sont des individus qui sont dans une délinquance sérielle, on c'est qu'à un moment donné, on va les reprendre. Et à ce moment-là, on pourra leur opposer l'identité communiquée par les pays du Maghreb. Ces éléments-là, ils sont rentrés dans le traitement des antécédents judiciaires. Le faux mineur qu'on identifie, s'il a quitté Paris pour aller sévir à Bordeaux, les services de police de province auront connaissance de cette identification.
Et cela intéresse déjà d'autres préfectures. Le problème, c'est que certains interpellés refusent le prélèvement de leur empreinte digitale, même si c'est un délit puni d'1 an de prison. Pour le député LR, Antoine Savigna, auteur d'un rapport parlementaire sur le sujet, il faut un système pénal plus contraignant.
Peut-être avec une échelle des peines plus importante, peut-être d'ailleurs avec simplement de vraies instructions données pour que des sanctions sévères soient prononcées. Après, il y a les moyens coercitifs. C'est vrai que c'est toujours compliqué de prendre une empreinte de force.
Le rapport plaide également pour renforcer la coopération avec les pays d'origine, mais aussi les pays de transit pour une meilleure identification des mineurs non accompagnés du Maghreb.
Dossier signé Marion Dubreuil pour Europe 1. Des mineurs isolés, cibles de réseaux criminels. Selon le Figaro ce matin, la police parisienne vient de démanteler deux structures clandestines qui hébergeaient et exploitaient de jeunes immigrés, allant même jusqu'à leur apprendre à voler et à cambrioler.
Sa candidature ne faisait pas vraiment de doute. Valérie Pécresse s'est officiellement lancée hier soir dans la course au régional en Ile-de-France.
La candidate sortante qui pourrait être bousculée au second tour en cas d'union de la gauche, même si pour l'instant, Audrey Pulvar pour le PS, Julien Bayou pour les Verts et Clémentine Autain pour les Insoumis jouent chacun leur partition pour Europe 1. Claudia Bertram.
Ils sont trois sur la ligne de départ, mais ils évitent de trop se taper dessus car leur cible commune, c'est Valérie Pécresse. Lors d'un premier débat, la candidate du PS, Audrey Pulvar, préfère même souligner les convergences à gauche.
Sur les fonds européens, c'est un engagement que j'ai pris déjà, et je crois que Julien Bayou également, mais probablement savez, Clémentine Autain.
Si les appels à l'union dès le premier tour des uns et des autres sont restés lettre morte, rien n'est perdu pour le second, estime l'écologiste Julien Bayou.
Moi, je pense que c'est important que chaque mouvement politique puisse présenter son projet. Et au second tour, il y a une logique à ce rassemblement. Nous n'avons pas d'adversaire à gauche, évidemment. La personne qui abîme cette région, c'est Valérie Pécresse.
Unie, la gauche la talonne sérieusement, d'après un récent sondage. De quoi donner espoir à la tête de liste insoumise Clémentine Autain.
On est au coude à coude avec Valérie Pécresse. Et ça, ça ouvre l'espoir. Ça veut dire qu'on peut gagner au second tour. C'est pas facile, mais c'est tout à fait possible.
Reste que chacun va essayer d'avoir le leadership dans les urnes le 20 juin pour prendre la tête du front anti-Pécresse. La présidente sortante, qui est bien consciente que la gauche peut la faire trébucher, elle veut donc croiser le fer sur la vidéoprotection, la République ou la croissance, des sujets sur lesquels ils ne sont pas tous d'accord.
Et Emmanuel Macron attendu aujourd'hui aux obsèques de la fonctionnaire de police tuée la semaine dernière à Rambouillet. Le chef de l'État qui dévoilera également demain matin dans une interview à la presse régionale son calendrier du déconfinement.
Le PSG se complique la tâche en Ligue des Champions. Défaite hier soir au Parc des Princes 2-1 contre Manchester City.
Les Parisiens pourtant menés au score en première période, mais ils n'ont pas pu compter sur leur star hier soir, Julien Froment.
Oui, à commencer par Kylian Mbappé, pourtant si déterminant contre le FC Barcelone et le Bayern Munich lors des tours précédents. Et bien cette fois-ci, l'attaquant français n'a pas pesé. Cette statistique, il n'a pas frappé une seule fois du match, une première pour lui en 36 rencontres de Ligue des Champions. Bref, une soirée à oublier. Quant à Neymar, sa prestation résume celle du PSG. Une première période brillante et puis le trou noir de star hors sujet. C'est l'analyse de Jimmy Algerino, consultant pour Europe 1.
On voit que Neymar est sorti complètement du match à la deuxième mi-temps. Mbappé n'est pas moins en puissance, donc ça fait beaucoup trop de choses. Ça va être un match très très difficile et très compliqué au match retour.
Avec ce résultat, le Paris Saint-Germain n'a que 7% de chances de se qualifier. Pour autant, impossible d'abdiquer, le capitaine Marquinhos au micro de RMC Sport.
Ceux-là qui ne croient pas, il ne faut même pas y aller. Il faut même pas y aller là-bas. Je pense qu'on est vraiment très très proche et il ne faut pas qu'on ait des doutes maintenant.
Mais il y a des motifs d'espoir. Cette saison, le Paris Saint-Germain a réussi tous ses exploits européens à l'extérieur, au Camp Nou de Barcelone, à l'Allianz Arena du Bayern. Il en faudra donc un de plus mardi prochain à l'Etihad Stadium de Manchester.
Voilà, le rendez-vous est pris pour mardi prochain. Et puis après le fiasco de la Super League en foot, le sport business refait parler de lui, cette fois dans le monde du rugby. La fédération néo-zélandaise va vendre des parts de sa marque All Black à des investisseurs américains. 230 millions d'euros. À la clé.
Alors les joueurs doivent encore se prononcer hein, aujourd'hui sur ce projet. On va y revenir tout à l'heure à 7h30.
Il connaissait Cannes pour son tapis rouge, mais c'est un peu plus à l'ouest, dans l'arrière-pays varois, que Georges Clooney pourrait bien s'établir. Selon nos confrères de Var Matin, l'acteur aurait l'intention d'acheter un domaine près de Brignoles, où s'est rendu Frédéric Michel pour Europe 1.
Au milieu d'oliviers, de pins, de chênes, dans ce bout du Var appelé la Provence verte, le domaine du Canadel s'étend sur 170 hectares.
Mon patron, il avait les photos.
Et ça y est, c'est vendu ?
Je sais pas.
Le gardien n'a rien à dire, mais l'acteur américain Georges Clooney aurait bien visité le domaine. Didier Brémond est le maire de Brignoles, où pourrait prochainement s'installer la star.
Selon mes informations, c'est pas signé, mais ça devrait se faire autour du 8 mai. C'est pas un domaine viticole, c'est une vraie propriété provençale. De belles pièces, des bassins, forêts, il y a un étang. Si j'ai bien compris, il cherche une propriété pour y venir se reposer, et pas forcément un grand domaine viticole.
Éric Lambert est le président du syndicat des vins coteaux varois en Provence. Les États-Unis, c'est leur premier marché à l'exportation, et le nom de Georges Clooney Clooney est évidemment vendeur.
On a déjà des personnes prestigieuses, Brad Pitt et Angelina Jolie, George Lucas à Châteauvert. Et c'est vrai que ça devient des ambassadeurs.
Surpris, les voisins du domaine du Canadel sont plutôt fiers.
Ah ben ça fait drôle qu'on va voir George Clooney en voisin.
Alison, tu savais qu'on allait comme voisin George Clooney?
Oui, c'est pour ça que je vais déjà acheter une tenue, un maillot de bain.
Si on a la chance de le voir au moins une fois dans sa vie.
George Clooney?
Bah écoutez, à l'occasion, s'il veut bien nous payer une bière, pourquoi pas quoi.
Ça change de Sainte-Maxime, Saint-Tropez.
Parce qu'on a aussi de très jolis coins dans le centre-voir.
Le prix du domaine qui appartient à un couple d'Australiens pourrait dépasser les 8 millions d'euros.
Un reportage de Frédéric Michel pour Europe 1.
Merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 7h.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Aux échecs comme en amour, il faut un partenaire. Vouloir jouer aux échecs contre soi-même est aussi paradoxal que vouloir marcher sur son ombre. C'est Stéphane Zweig, le joueur d'échecs bien sûr. Mais est-ce que c'est forcément vrai pour autant? On va entrer dans l'esprit d'un joueur d'échecs. Ce matin, vous allez voir que ça peut être compliqué. Depuis la Russie, où les meilleurs mondiaux sont réunis en ce moment, Maxime Vachier-Lagrave à 7h40. On dit de lui tout simplement que c'est le meilleur français de tous les temps. Le tête-à-tête Europe Matin qui va peut-être vous donner envie de ressortir, vous savez, cette boîte de jeu qui prend la poussière dans un placard. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré. Suivi du regard international de Vincent Hervouet.
On va parler des terroristes italiens que la France renvoie chez eux. On va se demander pourquoi, 50 ans après, et pour une fois que des demandeurs d'asile sont un modèle d'intégration.
A tout de suite sur Europe 1, 7h14. 7h16 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Google, Facebook, Apple, les profits des GAFA sont de plus en plus élevés. Et la question commence à se poser aux États-Unis. Est-ce que c'est tout à fait sain?
D'abord, pour vous situer l'échelle, Google a dégagé sur le trimestre près de 18 milliards de dollars de profit. Apple s'est tombé cette nuit 23 milliards 6. Facebook 9 milliards et demi.
Parlez de trimestre.
Alors, sur un trimestre. Ouais. Alors faites le calcul, pour Google par exemple, ça fait 1,5 milliard de dollars de profit par semaine, plus de 200 millions par jour. Alors vous allez me dire, tant mieux pour eux, grâce à ces profits, ces entreprises investissent et financent l'innovation. Sauf qu'il y a un moment où trop de profit peut être le signe d'un manque de concurrence, le signe qu'un groupe est devenu tellement puissant qu'il adopte un comportement de prédateur pour se transformer finalement en super rentier.
Et on en est là avec les GAFA?
Ben, aux États-Unis, en particulier dans l'administration Biden, de plus en plus de voix influentes le pensent et veulent même agir pour brider la puissance de ces empires du numérique qui, au fond, heurtent la tradition libérale américaine. Les États-Unis, c'est le pays de la libre entreprise. Or, un Google ou un Facebook ont désormais les ressources suffisantes pour tuer leurs concurrents, tout simplement, dès qu'ils deviennent un petit peu trop menaçants, dès qu'ils menacent leur rente, leur position acquise. Bref, les géants de la tech portent atteinte à cet esprit de concurrence et de libre entreprise qui est au fondement de l'économie américaine. C'est en tout cas la critique qui leur est faite.
Et l'administration Biden se dit prête à croiser le fer.
Alors oui, Joe Biden, c'est intéressant, vient de nommer commissaire à la concurrence une jeune avocate, elle a 32 ans, Lina Khan, qui s'est fait connaître pour sa vision radicalement nouvelle de la lutte contre les monopoles. Dans la tradition américaine classique, vous savez, on juge qu'une entreprise est en situation dominante si elle fait payer ses produits plus chers aux consommateurs. Et Lina Khan a montré que cette vision, en fait, ne marchait plus du tout à l'ère du numérique et que le critère pour juger si une entreprise est dominante et donc si elle doit éventuellement être démantelée, eh bien, c'est de voir si le consommateur a vraiment du choix. Et on voit bien que ça change tout. Si un moteur de recherche est archi-dominant comme Google ou si un Amazon truste le commerce en ligne, eh bien, c'est qu'il y a un problème de choix. Les super profits des GAFA sont d'ailleurs le signe de cette position dominante. Seront-ils pour autant donc un jour démantelés? Ça, c'est une autre histoire.
Et vous serez là pour la raconter. Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. 7h19 sur Europe 1, le regard international, Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La France a donc décidé de livrer à l'Italie d'anciens terroristes qu'elle réclamait depuis des années. C'est une rupture.
Oui, ces dix Italiens peuvent maudire Cesare Battisti, le révolutionnaire adulé par l'intelligentsia de gauche qui a incarné pendant des décennies l'innocence persécutée. Sa cavale s'est terminée en Bolivie il y a 2 ans et il a dit au juge « Je n'ai jamais été victime d'injustice, je me suis moqué des Français qui m'ont aidé et je n'ai même pas eu besoin de mentir à certains d'entre eux ». Alors sans le cynisme de cette vieille brute, la France aurait sans doute continué à faire la sourde oreille à la justice italienne. Depuis 40 ans, Rome explique que les 200 Italiens condamnés par contumace et vivant en France ne sont pas des réfugiés mais des fugitifs, que leurs crimes inutiles sont documentés et leur procès irréprochable, et tout ça en vain.
Emmanuel Macron offre un cadeau à Mario Draghi.
La fin de règne d'Angela Merkel met le tandem franco-allemand en panne. Alors la France cherche d'autres alliés, notamment pour assouplir le pacte de stabilité. Les cadeaux entretiennent l'amitié. Alors plaider qu'il est normal qu'en Europe, les condamnations soient exécutées est parfaitement hypocrite. D'abord, la liste italienne comporte 200 noms et en livrant 10 assassins, on efface l'ardoise de 95% des personnes recherchées. Ensuite, il y en a pour des années de guérilla judiciaire avant d'épuiser les recours. Et enfin, c'est un pan de souveraineté qui est abdiqué. François Mitterrand protégeait les Italiens parce que tel était le bon plaisir de la France dans la logique de l'espace judiciaire européen. Ses successeurs n'auront plus cette liberté.
50 ans après, il est temps de rendre des comptes.
On devrait se demander si ce n'est pas trop tard. Les Romains ont inventé la prescription il y a 2000 ans. À l'inverse, notre époque s'interdit d'oublier. Tous les crimes deviennent imprescriptibles. Cette semaine, au Royaume-Uni, on juge deux anciens parachutistes pour avoir tiré sur un membre de l'IRA qui tentait de s'enfuir. C'était en 1972. Vous n'étiez pas né, Mathieu. Les magistrats non plus. 50 ans après, les deux retraités doivent expliquer l'extrême tension qui régnait en Irlande du Nord. Le choix binaire qu'a eu la patrouille, stopper ou laisser filer le terroriste. Le procureur a dit que le niveau de violence employé était déraisonnable. Il a bien raison, mais on voit aussi qu'il n'a pas connu l'Onondéry pendant les troubles. C'est l'Ulster qui avait perdu la raison, tout comme l'Italie.
Vincent Hervouet, merci beaucoup. Vous étiez né, vous, en 72, Vincent ?
À peine.
Merci beaucoup, Vincent Hervouet. 7h21. Vous restez bien sur Europe 1 dans un instant, l'édito sport de Virginie Fulpin. Il paraît qu'il y avait un match de foot hier soir. Et juste après, évidemment, notre rendez-vous d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu. Vous êtes en forme ? Non, moi je suis un peu patraque. D'où ça vient, patraque ?
A tout de suite sur Europe 1. 7h23 sur Europe 1, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le Paris Saint-Germain battu 2-1 par Manchester City, demi-finale aller de Ligue des Champions. Une première mi-temps parfaite, une deuxième cauchemardesque. Pour vous, Virginie, l'avantage de cette inconstance, c'est qu'on n'a pas, on peut pas avoir la moindre idée de ce qui va se passer au match retour.
Ouais, le PSG n'est ni pour ni contre, bien au contraire. Hein. Avec cette équipe, il faut se méfier des conclusions hâtives. Les joueurs ont la manie de les démentir dans la seconde. Hier soir, ils nous ont offert 90 minutes de condensé de leur art d'être inconstant. La première mi-temps ressemblait à un chef-d'œuvre collectif, hein, ponctué par un but de Marquinhos. Et les commentaires élogieux pleuvaient sur le capitaine Courage et son armée, emmenée par un André Di Maria de gala. Pour une fois qu'on pouvait s'enthousiasmer, autant le faire avec emphase. Et puis après la mi-temps, plus rien. Neymar et Mbappé ont dû rester au vestiaire, je vois que ça. Et les autres étaient asphyxiés sur le terrain. Plus de jambes, plus de tête, plus de souffle. Rien à part ce goût amer de l'inachevé et de cette tendance à retomber dans ses travers à la moindre contrariété. D'habitude, sur les allers-retours en Ligue des Champions, les Parisiens sont très forts lors d'un match et laborieux dans le deuxième. Là, on a eu droit à tout et son contraire en une seule rencontre. On n'arrête pas le progrès. Allez comprendre, le S de PSG, c'est Sisyphe. Il roule le rocher jusqu'en haut de la colline. On voit les sommets européens et ça retombe.
Alors, autant le dire clairement, ce matin, le PSG est mal parti pour aller en finale.
Alors vous connaissez les fameuses statistiques qu'on sort après les matchs aller. 7% des équipes qui ont perdu 2-1 à domicile à l'aller se sont qualifiées au retour. C'est léger. Eh bien oubliez-les ces statistiques. D'abord parce que le concept de domicile et d'extérieur dans des stades sans public ne veut pas dire grand-chose.
Ouais.
Et puis on parle du Paris Saint-Germain, une équipe qui, dans son Parc des Princes, n'aura donc battu ni le Barça, ni le Bayern de Munich, ni Manchester City. On n'est plus chez soi, c'est pas possible. Et dans le même temps, les Parisiens ont gagné à Barcelone, à Munich, et donc pourquoi pas à Manchester. Si on veut essayer de chercher une logique dans leur saison qui n'en a pas vraiment, elle est peut-être là. Tout est dans le peut-être. Cette équipe réussit à être enthousiasmante et désespérante à la fois, en un mot déroutante. L'avantage, c'est que les adversaires ne savent jamais contre quel Parisien ils vont tomber. D'ailleurs, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, en est parfaitement conscient. Le PSG, c'est la cyclothymie appliquée au football. Et c'est fatigant.
Merci Virginie Fulpin. C'est fatigant, c'est passionnant.
Fatigant.
Et attention à Pep Guardiola qui a bien conscience de cela. Il l'expliquait très clairement.
Oui, c'est ça. Et donc, il ne va pas se laisser avoir.
Ça, l'avantage, c'est que ça arrive très vite. C'est mardi prochain, le match retour. Merci Virginie Fulpin. 7h26 sur Europe 1, l'heure de retrouver Stéphane Bern pour un mot d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, j'espère que tout le monde va bien. Virginie, vous êtes en forme ?
Pour l'instant, ça va.
Bon, et que ni vous ni personne, votre entourage n'est patraque. Patraque. D'où vient ce mot étonnant ?
Alors, être patraque, c'est se sentir un peu malade, pas à l'aise. On couvre quelque chose. Généralement, vaut mieux faire un test. Hein ? Est-ce que patraque a pu s'écrire en deux mots par le passé ? Je veux dire, est-ce que c'est le pas dans le patraque ? C'est une négation ?
Ah, pas du tout, Mathieu. J'essaie de vous contredire que c'est moi-même qui écris votre question. J'adore vous mettre dans l'embarras. Patraque est une traduction pure et simple de l'italien. On disait chez nos voisins « pataca » avec un T et deux C. « Pataca » était en fait une monnaie utilisée à Malte et qui était sans grande valeur. C'est au XVIIe siècle en France que être patraque est utilisé. On dit également une patraque pour désigner une vieille machine qui fonctionne mal, qui est mal fichue. On utilisait ce mot pour les vieilles montres et les horloges vétustes. Et c'est vrai que quand on est patraque, la machine se grippe et personne ne peut plus compter sur nous. Notez qu'aujourd'hui, plutôt que de se sentir patraque en Espagne, on dit « estar como una patata ». On se sent comme une patate. Effectivement, c'est pas très glamour. En Angleterre, « to be off colour », ne plus avoir de couleur. Bref, on est un peu palo. Alors qu'aux États-Unis, c'est « to be running out of steam », commencer à manquer de vapeur. Il est temps de remettre des bûches dans la cheminée. Allez, reprenons tous du poil de la bête grâce à Francis Blanche, qui lui disait « quand on a la santé, c'est pas grave d'être malade ».
À 16h tout à l'heure, on vous retrouve avec Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre.
Oui, on réunit la peintre et poétesse anglaise Mina Loy et son manifeste féministe. Valérie Solanas, féministe radicale connue pour avoir tenté d'assassiner Andy Warhol et son Scum Manifesto. Et une figure contemporaine, Virginie Despentes et son King Kong Theory. Leur point commun, trois badasses du féminisme qui ont écrit un manifeste.
À tout à l'heure, 16h. À 7h28, c'est Laurent Cabrol que l'on retrouve pour la météo.
Comme dirait Francis Blanche, quand la terre est sèche, c'est pas grave qu'il pleuve.
Allons-y alors.
Et il pleut effectivement. Alors il pleut sur la moitié sud, ça nous le savons depuis maintenant 2-3 jours. Et maintenant les pluies arrivent à petit hein, sur les régions de la moitié nord hier. Nous avons eu des orages autour du bassin parisien. Nous avons encore des orages en perspective aujourd'hui, mais toujours dans le sud-est, sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Des orages qui sont parfois assez musclés. Donc la pluie aujourd'hui pour le sud-ouest, pour la région donc, que je viens de citer, la région PACA, le Midi-Pyrénées, la vallée de la Garonne, toutes ces régions seront sous des pluies. Oui, peu ou prou, mais enfin il y en aura. Sur le Poitou-Charente, la Bretagne, la Normandie, le Centre et la Bourgogne, un ciel voilé. À Paris, il a plu un petit peu maintenant, mais c'est fini presque. Et puis le Nord-Picardie, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace, amélioration progressive au fil des heures. Je vous parlerai de la suite tout à l'heure, parce que c'est intéressant, la suite du temps dans les jours à venir. Les températures maximales entre 15 et 18 degrés. Couvrez-vous quand même un poil. Hein.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Très bon réveil à tous.
Le 7-9. Mathieu Béliard.
Pardon madame, très bon réveil à tous, il est 7h29. Bonjour Roman Hoquet.
Bonjour à tous.
Un nouveau journal, il est presque 7h30.
Si les travailleurs de la deuxième ligne devront bien entendu en être les bénéficiaires privilégiés, cette prime sera ouverte à tous les salariés.
C'était il y a un mois, Jean Castex annonçait la troisième version de la prime Macron. Nouveauté, cette année, la prime sera revalorisée pour les salariés les plus impliqués dans la lutte contre l'épidémie. Dans ce journal, l'enquête sur la mort de Steve Maya Canisso. Le jeune homme était tombé dans la Loire lors d'une fête de la musique en 2019. Plusieurs policiers sont auditionnés cette semaine. Et puis cette série multi-récompensée qui galvanise la lutte féministe dans le monde. La Servante écarlate, dont la quatrième saison arrive aujourd'hui en France.
Juste après ce journal, La Touche Âme, le regard décalé de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Le tête-à-tête Europe Matin avec Maxime Vachier-Lagrave. 30 ans, il est considéré comme le meilleur joueur d'échecs français de tous les temps. L'édito politique, Nicolas Bétou.
Je vais vous parler d'un texte qu'a écrit Emmanuel Macron sur la France en 2025. Un texte qui dit tout de sa volonté d'être aux manettes à ce moment-là.
Texte que vous publiez ce matin dans le journal L'Opinion. Et puis enfin, avant 8h, Nicolas Canteloup qui conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner. 8h15 au micro de Sonia Mabrouk. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Mais d'abord, dans ce journal, les All Blacks vont-ils vendre leur âme au diable ?
La fédération de rugby néo-zélandaise vient de donner son feu vert à un fonds d'investissement américain. Un accord qui permettrait à la fédération de commercialiser les droits de leur équipe de légende. Et Corinne Boulou, ça déclenche des réactions passionnées dans le pays.
Et oui, parce que vous ne touchez pas impunément à un monument national comme les All Blacks. C'est le fonds d'investissement américain Silver Lake qui a montré son intérêt. Le même a d'ailleurs acquis en 2019 10% de parts dans le City Football Group, le propriétaire de Manchester City, vainqueur hier soir au Parc des Princes. Cette fois, la cible, c'est bien le rugby et les mythiques All Blacks, avec l'objectif d'investir plus de 200 millions d'euros contre 15% des droits de la marque des hommes en noir, triple champion du monde. C'est aussi pour la fédération néo-zélandaise qui a donné son feu vert ce matin au projet. Un moyen de trouver une solution à la crise financière qu'elle traverse. Le fonds d'investissement américain souhaite ainsi s'offrir le droit de négocier des accords dans le monde entier pour vendre des droits télé et des produits dérivés. Mais pour les opposants, la venue de ce fonds d'investissement est un manque de respect à la culture rugby néo-zélandaise. L'ancien patron de la fédération met en garde contre la tentation de vouloir utiliser l'image des All Blacks à tort et à travers en leur faisant jouer par exemple des matchs dénués diminuer de sens aux États-Unis. Pour transformer l'essai et valider le projet, il faut maintenant l'aval des joueurs. Les All Blacks vont avoir leur mot à dire et ils semblent réservés. Surtout, ils ne souhaitent pas que leur AK, leur fameux cri de guerre, prélude à chacun de leurs matchs, ne fasse partie de la transaction.
Ah bon ? J'allais dire, il suffit d'envoyer juste une tournée de AK et qu'on laisse le rugby tranquille, mais non, on va le préserver, non. Le AK, c'est plus que du folklore, évidemment, hein, pour faut bien le souligner. Ça fait du bien d'entendre ça.
Ça galvanise
national.
Non, mais je pense à ceux qui sont en train de se réveiller, un petit AK de bon matin. Merci Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. Il est 7h32.
Sur le front du Covid en Inde, le décompte macabre se poursuit avec un nouveau chiffre ce matin, 3645 morts ces dernières 24 heures. Une épidémie hors de contrôle à cause d'un variant redoutable déjà détecté dans plusieurs pays européens. La France, pour l'instant, passe à travers.
Chez nous, les chiffres de l'épidémie diminuent très lentement. Une situation sanitaire qui sera évoquée demain par Emmanuel Macron. Le chef de l'État accorde une interview à la presse quotidienne régionale pour détailler le calendrier du déconfinement.
L'exécutif qui fait aussi un geste en faveur des salariés particulièrement impliqués dans la lutte contre l'épidémie. La prime Macron version 3, le gouvernement vient d'en préciser les modalités.
Emmanuel Duteil, la nouveauté cette année, c'est que pour ces professions de deuxième ligne, comme on dit, cette prime pourra aller jusqu'à 2000 euros.
Oui, hein, les personnels de la santé, de l'agriculture, de l'aide à domicile, du commerce ou encore du gardiennage vont pouvoir bénéficier de cette prime de 2000 euros. En tout, 17 métiers sont concernés. Cette prime, c'est l'employeur qui décide ou non de la verser, ce n'est pas l'État. Et pour avoir le droit de distribuer cette prime totalement défiscalisée, l'entreprise doit être dans une branche professionnelle qui a lancé des discussions pour revaloriser ces métiers de la deuxième ligne. Pour toutes les autres entreprises, il est possible de verser une prime de 1000 euros maximum. Elle concerne là aussi tous les personnels qui gagnent moins de 3 SMIC, c'est-à-dire moins de 3700 euros net par mois. Le versement de la prime peut avoir lieu jusqu'à la fin du premier trimestre de l'an prochain. Et pour pouvoir verser cette prime, il faut avoir signé un accord d'intéressement. Justement, le gouvernement a décidé de faciliter la mise en place de ces accords d'intéressement et de participation dans les toutes petites entreprises. Mais dans le contexte actuel, reste à savoir combien d'entreprises pourront verser ce coup de pouce à leurs salariés.
Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Et un autre coup de pouce aux États-Unis, cette fois 2000 milliards de dollars dédiés à l'éducation et à l'aide aux familles. Un plan de lutte contre les inégalités que Joe Biden a présenté cette nuit devant les membres du Congrès. Le premier discours du président démocrate après 100 jours à la Maison-Blanche. Un programme financé par des hausses d'impôts pour les entreprises et pour les Américains les plus riches.
Il y a bientôt 2 ans, lors de la fête de la musique à Nantes, le jeune Steve Maiacanico tombait dans la Loire. Le corps du jeune homme n'avait été retrouvé qu'au mois de juillet dernier.
Oui, et l'enquête pour homicide involontaire avance, puisque depuis hier, plusieurs policiers ont commencé à être entendus. Des auditions, Gladys Laffitte, pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là.
Oui, et notamment sur ce qu'il s'est passé lors de l'intervention des forces de l'ordre pour mettre fin à cette fête de la musique ce soir-là. Des participants avaient dénoncé une opération disproportionnée, notamment à cause de l'usage massif de gaz lacrymogène en bord de Loire. C'est donc pour cela que le juge d'instruction a demandé à ce que plusieurs policiers soient entendus par l'IGPN, la police des polices, qui mène l'enquête sur ce volet-là. Il s'agit de fonctionnaires qui n'ont jamais été entendus et d'autres qui vont être réentendus. Ils sont en tout cas concernés par cette intervention ou par la gestion de l'ordre public le soir des faits. Par ailleurs, des résultats d'expertise sont attendus pour essayer de déterminer à quelle heure et où précisément Steve a chuté dans la Loire. Ce n'est qu'une fois ces actes d'enquête terminés que d'éventuelles responsabilités pénales pourront être envisagées, a fait savoir le procureur de la République de Rennes.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. 2 Golden Globes, 8 Emmy Awards, c'est une série multi-récompensée qui est de retour à partir d'aujourd'hui.
Oui Mathieu, vous la connaissez sûrement, La Servante Écarlate, dont la 4e saison arrive en France sur OCS. Une série violente certes, mais fascinante aussi, qui raconte l'histoire d'une dictature où les femmes sont soit des épouses, soit des esclaves.
Et Margot Barallon, la Servante Écarlate, est d'ailleurs devenue le symbole de certaines luttes féministes.
Oui, car la série, diffusée à partir de 2017 dans l'Amérique de Trump, évoque notamment les menaces qui pèsent sur le droit à l'avortement aux États-Unis.
Quand les taux de natalité ont chuté, ils ont aggravé les choses. Pilule contraceptive, pilule du lendemain, Ils ont assassiné des bébés.
Très vite, les robes rouges et les coiffes blanches portées par les servantes de la série ont inspiré des milliers de femmes, jusqu'en Irlande, en Pologne ou en Argentine. Anne Besson, professeure de littérature, a publié un essai sur le rôle politique des fictions.
Le costume créé pour la série a fait l'objet d'appropriation par des manifestantes un peu partout dans le monde. Et donc effectivement, une des choses qui fait la popularité de cette série, ce sont ces appropriations politiques, c'est-à-dire la manière dont les servantes sont sorties de l'écran pour se retrouver devant les tribunaux ou dans les rues face aux attaques qui portaient sur les droits des femmes.
Selon Anne Besson, les images de ces manifestantes en rouge et blanc, très relayées sur les réseaux sociaux, ont permis d'offrir à ces mouvements féministes une visibilité inespérée et ont aussi participé au succès de la série.
Voilà, si vous manquez d'inspiration, faites confiance à Margot Barallon, spécialiste série d'Europe 1.
La Servante écarlate saison 4. Merci beaucoup Romain Oquet, c'était le journal de 7h30 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et puis tiens, de La Servante écarlate, une autre série phénomène, il y a quelques mois seulement. Le jeu de la dame. L'univers élégant, intelligent des échecs, mais au-delà des images d'Épinal, les échecs sont sur Twitch maintenant, écoutez.
Genre, fou au 7, mais bon, si tu joues fou au 7, tu m'autorises peut-être des coups comme cavalier T5 ou cavalier B5. Ok, très intéressant de la part de MVL de jouer sur tour FD1.
MVL, vous avez entendu, c'est Maxime Vachier-Lagrave qui joue en ligne. Quand il joue, ce sont 20 000 spectateurs qui le suivent comme pour un jeu vidéo ou un match de foot. À 30 ans, il est considéré comme le meilleur joueur d'échecs français de tous les temps. Il est en Russie en ce moment pour un tournoi mondial et il est surtout dans le tête-à-tête Europe Matin dans un instant. Mais tout de suite, La Touche Âme, bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour Mathieu Béliard, oubliez les applis de rencontre pour trouver l'amour en 2021, soyez qu'à contact.
A tout de suite sur Europe 1. 7h40 sur Europe 1, l'heure de La Touche Âme, le regard de Bertrand Chameroy sur l'actualité. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu. Ce matin, de la douceur dans ce monde de merde, de brut, pardon. Et cette question,
ça va aller, ça va aller.
En 2021, où rencontrer sa moitié quand les bars, les restaurants, les cinémas sont fermés, quand on est confiné et pire au couvert? C'est un adjectif que j'ai inventé pour dire qu'on est en couvre-feu. On dit qu'on est pire au couvert.
Pire au couvert, c'est pas mal.
Eh bien, il existe des solutions alternatives. Vous en avez peut-être entendu parler. Ce sont nos confrères de l'Est républicain qui relatent ce qui est la belle histoire de la semaine. À Belfort, Julie et Michael, 21 ans, se sont rencontrés et sont tombés amoureux dans un centre de dépistage Covid. Et oui, contrairement à nous, Mathieu, l'amour n'a pas besoin d'attestation de déplacement. Il se fiche du rayon des 10 km. Il frappe où il veut, quand il veut. Tous anti-Covid, c'est le nouveau mythique. En novembre dernier, Julie, cas contact, doit réaliser un test PCR. C'est à reculons qu'elle se rend au centre, car comme elle l'explique au quotidien, elle ne garde pas un très bon souvenir de sa première fois. Je cite, « J'en avais pleuré de douleur la fois précédente. » Comme beaucoup de premières fois. Et c'est donc Michael qui est chargé de réaliser le test. Entre eux, la magie opère instantanément malgré les masques. Ils discutent pendant plus d'une heure avant que Michael ne réalise le prélèvement. Sa collègue est même venue s'assurer que tout allait bien puisqu'il ne ressortait pas du box. La discussion se poursuit le soir même sur les réseaux. Une semaine plus tard, les tourtereaux décident de se revoir. Et depuis, pas un jour, pas une nuit, l'un sans l'autre, comme ils l'ont expliqué à l'Est républicain. Mais que c'est mignon. C'est beau comme un téléfilm romantique de l'après-midi sur TF1. Prochainement, sur vos écrans, découvrez Coup de foudre au centre de dépistage de Belfort. Elle est patiente, il est préleveur. Le résultat du test est sans appel, ils sont positifs. À l'amour. Personne suivante. Bonjour. Je vais vous demander de pencher la tête en arrière. Voilà. Attention, je vais. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas, j'ai des papillons dans le nez. Tu veux dire dans le ventre? Non, dans le nez. Ah, c'est les couvillons, ça. Mais j'ai quelque chose à t'avouer, Julie. Moi aussi, je suis qu'à contact. Qu'à contact de ta beauté, ta malice et ton humour. Mes sentiments pour toi sont aussi profonds que ton conduit nasopharyngé. Ça te dirait de venir chez moi ce soir après 19h? Je pourrais te faire une attestation. Ah oui, mais sache que d'habitude, je ne coche jamais le premier soir. Même la case motif impérieux, car l'amour en est un, tu sais. Je t'aime, Julie, regarde, j'ai un cadeau pour toi. Ah non, c'est pas vrai, c'est... Oui, un créneau de vaccination. Je l'ai trouvé sur Vite ma dose. Demain, 15h, gymnase Patrick Topalov à Pantin. Et c'est ainsi qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'anticorps. Coup de foudre au dépistage de Belfort, demain, 13h45 sur TF1, avec une BO signée Juliette Armanet et son tube L'amour en PCR.
Vous les écrivez vraiment, leur bande-annonce, non?
Bien sûr.
C'est beaucoup trop près de la réalité.
C'est surtout que j'adore ces téléfilms.
Mais vivement qu'ils rouvrent les bars. Non, mais pensez à tous ces célibataires qui cherchent l'amour et qui sont coincés avec des téléfilms. Oui, parce qu'on peut plus aller au ciné le soir.
Chérie, tu vois un téléfilm de TF1 d'après-midi ? Ça promet du rêve. On vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Bordel dans Culture Média. Merci Bertrand Chameroy, il est 7h43.
Europe Matin, le 7-9.
Maxime Vachier-Lagrave a commencé les échecs à 4 ans. Aujourd'hui, il en a 30 et il est présenté comme le meilleur français de tous les temps. Les échecs sont à la mode, à la faveur des confinements, des couvre-feux et après le succès de la série Le Jeu de la Dame, dont vous entendez la musique. Ce matin, plongé dans cet univers un peu froid, c'est vrai, depuis Ekaterinbourg en Russie, où un tournoi rassemble les meilleurs mondiaux. Découverte avec mon invité, c'est le français Maxime Vachier-Lagrave.
Le tête-à-tête, Mathieu Béliard.
Maxime Vachier-Lagrave, bonjour.
Bonjour.
Alors pour quelqu'un qui débarque, on va remonter le temps. Pour quelqu'un qui débarque d'une autre planète, les échecs. Comment est-ce que vous parlez de ce jeu ? Qu'est-ce que sont les échecs ?
C'est le jeu ultime en fait. C'est un jeu qui a 2000 ans au compteur à peu près, alors même s'il y a eu des évolutions de règles. C'est un jeu qui n'est pas résolu. Et c'est-à-dire que même au plus haut niveau, il y a encore beaucoup d'erreurs. Donc c'est pour ça que c'est un jeu dont les règles sont très simples, mais qui est très compliqué à maîtriser.
Vous dites que c'est un jeu qui n'est pas résolu ?
Alors même si les ordinateurs, les logiciels d'échecs nous ont fait énormément progresser, ils ne nous ont pas non plus donné la vérité acquise sur le jeu. Et puis c'est un jeu qui a énormément de possibilités. Il y a 10 puissance 120 parties possibles, donc c'est plus que le nombre d'atomes dans l'univers.
Ce matin, vous êtes en ligne d'Ekaterinbourg, en Russie. C'est pas rien, hein, la Russie, quand on joue aux échecs, au lendemain du tournoi des candidats. Alors, d'une phrase, c'est une compétition qui envoie un adversaire pour contester son titre au champion du monde. On découvre, hein, avec vous ce matin. Je crois que vous êtes déçu de votre parcours dans le tournoi.
Alors, c'est ça, en fait. Donc, c'était un tournoi à 8 joueurs et seul le vainqueur remportait le droit de jouer le match pour le titre. Donc, c'était mon unique objectif. Donc, je finis deuxième. Donc, à partir de là, c'est forcément une déception.
C'est dur, c'est dur. Mais tout de même, Maxime Vachier-Lagrave, vous jouez depuis vos 5 ans. Vous en avez 30 aujourd'hui. Grand maître international à 14 ans. C'est quoi, grand maître international ?
Alors, grand maître international, c'est le plus haut titre qu'on puisse obtenir aux échecs. Et il y a environ 1500 grands maîtres dans le monde.
Je voyais votre préparation, hygiène alimentaire, exercice physique. Pendant de longues heures en tournoi, vous êtes assis, concentré, 4, 5, 6, 7 heures. C'est un sport de haut niveau.
Oui, en tout cas, je considère ça comme un sport de haut niveau. Ça demande une concentration sans relâche, voilà, pendant des parties qui durent entre 4 et 6 heures généralement. Donc forcément, à la fin du tournoi, on finit généralement très fatigué, voire épuisé.
Il y a du dopage ?
Pas de dopage en tant que tel. Enfin, il y a des contrôles antidopage, mais il n'y a pas eu de scandale de dopage qui a éclaté. Par contre, il y a un phénomène qui est pris très au sérieux, c'est la triche électronique. De nos jours, les ordinateurs sont tellement forts qu'un smartphone bat les meilleurs joueurs du monde. Donc c'est un travail de longue haleine. Voilà, d'avoir des mesures de sécurité suffisantes, évidemment, pour interdire tout ce qui va être téléphone, appareil électronique, mais également, par exemple, les montres, les stylos.
L'homme contre la machine, ce match, il est définitivement perdu pour l'être humain ?
À l'époque où Deep Blue a battu Kasparov en 1997, ça avait fait énormément de bruit, mais à ce moment-là, l'homme était encore intrinsèquement supérieur aux machines.
À ma gauche, Garry Kasparov, 32 ans, l'un des meilleurs joueurs d'échecs au monde. À ma droite, Deep Blue, l'ordinateur le plus puissant, jamais mis au point par IBM pour ce genre d'exercice.
Mais depuis 2005, ce n'est plus le cas. Et surtout, les machines continuent à progresser à un rythme fou et les logiciels d'aujourd'hui sont incommensurablement plus forts que ceux d'il y a ne serait-ce que 5 ans.
Dans l'actualité récente des échecs, il y a eu la série Le Jeu de la Dame et ça me fait un lien finalement puisque je voyais, ce sont vos mots, hein, c'est le plus gros coup médiatique depuis Deep Blue contre Kasparov. Les échecs ont besoin peut-être de ces coups d'éclat, des coups médiatiques, disons-le, pour sortir d'une forme d'austérité.
Ah, tout à fait, la série a été une énorme chance pour les échecs et a permis de révéler la beauté du jeu. Voilà, sans tomber dans les clichés et surtout de façon assez juste. Les gens qui ont regardé la série ont pu s'imprégner de cette ambiance et voir un peu la fascination qu'exerce le jeu d'échecs auprès de tous les amateurs, tous les fans, tous les professionnels du jeu. Parce que, évidemment, moi, à la base, maintenant, c'est mon travail de jouer aux échecs, mais à la base, c'était évidemment une passion.
Vous en vivez ?
Alors oui, j'en vis très confortablement, oui. Après, voilà, c'est pas les salaires qu'on peut avoir dans le tennis ou le football, mais ça reste confortable.
Par an, vous arrivez à dégager quel genre de revenus avec les échecs ?
Oui, non, mais il n'y a pas de tabou spécial. Donc après, ça dépend, mais c'est aux alentours de 200-300 000 euros par an. Voilà.
Je n'aurais jamais cru une seule seconde qu'il soit possible de gagner de l'argent en jouant aux échecs.
Il y a des tournois avec des prix encore plus élevés. Plusieurs milliers de dollars.
Seigneur.
Alors est-ce qu'on peut aller à la banque après mes cours ?
Le jeu de la dame, donc, série phénomène sur Netflix, vous avez salué le réalisme de ce succès de la fin de l'année dernière. Est-ce que, je voulais vous poser la question, est-ce que vous voyez, vous, les pions avancer comme le personnage principal sur le plafond, les pièces bouger, les coups se jouer mentalement ?
Alors, pas sur le plafond, mais en effet, je suis capable. En fait, quand je démarre une partie, j'ai en quelque sorte l'échiquier qui s'imprime dans mon cerveau et les pièces qui bougent. Directement dans mon cerveau, donc d'une certaine manière, oui.
D4, F5, K7, F6.
Mais j'ai vu que vous êtes capable de jouer, alors on dit à l'aveugle, sans échiquier, en disant tour A6, A2, cavalier B4, etc.
D4.
Oui, tout à fait, mais alors ça, au final, c'est plus spectaculaire que c'est difficile, en fait. C'est-à-dire que la plupart des joueurs d'échecs, on va dire, qui ont atteint un bon niveau en club, sont capables, par la force des choses, de jouer à l'aveugle. Alors, évidemment, peut-être pas aussi précisément ni aussi fluidement, mais voilà, par exemple, j'ai maîtrisé la capacité de jouer à l'aveugle vers 7-8 ans, donc très rapidement après avoir commencé.
Regarde, le pion du cavalier est coincé.
Et alors ?
Tu dois déplacer ton roi maintenant, autrement tu seras bloqué plus tard.
Bon, il y a une pensée quand même pour ceux qui sont obligés de réfléchir à chaque coup du cavalier. Hein. C'est quand même une disposition mentale particulière.
Ah oui, non, bien sûr, c'est quelque chose qui s'entraîne. Hein. C'est pas quelque chose qui s'acquiert de façon magique. Ça fait partie des petits secrets qu'on a en tant que joueur, mais qui au final voilà, sont plus des artifices. Mais après, ça a une vraie utilité d'être capable de jouer à l'aveugle bien, puisque pendant les parties, quand je réfléchis, je suis obligé d'être en capacité de calculer loin sans bouger les pièces. Donc au final, même si je ne joue pas à l'aveugle, voilà, y a une partie de mes réflexions qui se font comme si j'étais à l'aveugle.
Et il y a un petit côté poker, hein, quand on vous voit jouer, il y a un petit côté poker face, je veux dire, ne pas montrer non plus à son adversaire quel coup on est en train de calculer ou ce qu'on envisage de faire.
Alors c'est important de ne pas montrer trop d'émotions, de ne pas montrer exactement où on en est dans la partie et que l'adversaire ait le moins d'informations possible. Il y a également une part de psychologie, hein, dans les coups que je vais choisir, c'est-à-dire que voilà, contre certains adversaires, je ne vais pas jouer de la même façon que contre d'autres, parce que chaque joueur, même au très haut niveau, a ses caractéristiques propres, son style, ses forces et ses faiblesses.
30 ans, Maxime Vachier-Lagrave, grand maître international depuis ses 14 ans. Deuxième donc à ce concours international des candidats depuis Ekaterinbourg en Russie, bien sûr. Voilà, qui aura passionné ceux qui ont ressorti leur échiquier ces derniers mois, hein, parce qu'il y a eu un effet de mode. Donner envie à d'autres, peut-être. Merci beaucoup, Maxime Vachier-Lagrave.
Ben, merci à vous.
Découverte sur Europe 1 ce matin et portrait d'un talent français. À bientôt.
À bientôt.
Europe 1, Mathieu Béliard.
7h51 sur Europe 1 dans quelques secondes. L'édito politique de Nicolas Bétou, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1.
La Caisse d'épargne vous présente l'édito politique. Caisse d'épargne, vous être utile.
Bonjour Nicolas Bétou.
Bonjour Mathieu.
On pourrait presque dire bon anniversaire, vous allez comprendre. Une cinquantaine de personnalités de la politique, de l'économie, de la science, des arts, du sport écrivent ce matin dans votre journal, L'Opinion. Et parmi ces signatures, il y a celle d'Emmanuel Macron.
Et oui, et le simple fait que le chef de l'État ait accepté cet exercice est en soi un signe politique. Nous fêtons en effet ce matin le 2000e numéro de ce quotidien, créé il y a 8 ans. Et nous avons demandé à des plumes prestigieuses d'imaginer la une du numéro, non pas 2000, mais 3000.
Dans 4 ans donc.
C'est ça, et Emmanuel Macron nous a répondu en décrivant sa France de 2025, celle qu'il veut rendre possible. Il n'y a pas de conditionnel dans son texte, le message est clair. le président de la République se projette dans un second mandat.
Et quels sont les thèmes, ou plutôt quelles sont les unes qu'il imagine pour dans 5 ans ?
Alors, une sur la jeunesse qui a rattrapé le temps perdu et retrouvé le chemin de l'emploi. Bon, naturellement, la France aura largement tourné la page de la pandémie. Une autre une sur une France à l'avant-garde du progrès vert, une sorte de « en même temps » qui réconcilie la croissance et la planète. Un titre sur l'excellence industrielle et la réhabilitation des usines, ou encore une manchette sur ce qu'il appelle un nouveau modèle social français avec un système de retraite adapté. Et puis, bien sûr, Emmanuel Macron se projette sur l'Europe avec une ambition étonnante, à ma connaissance jamais formulée ainsi, réitérer l'expérience de la dette commune, celle du plan de relance, vous savez, les 750 milliards, pour investir dans la défense de l'Europe, sa souveraineté industrielle et le contrôle des frontières. Une mutualisation très nouvelle, donc, de ces politiques.
Oui, bon courage pour convaincre hein, sur la scène européenne, oui. sur ce point-là. Bon, est-ce qu'on peut dire que ce texte est une sorte de pré-programme pour 2022 ?
Alors, à grands traits, oui.
Il n'y a rien sur le régalien, là ?
Alors si, mais c'est le seul domaine sur lequel, curieusement, Emmanuel Macron ne décrit pas la une qu'il imagine, mais plutôt celle qu'il ne veut plus voir, sur l'insécurité, la violence, les bandes, les féminicides. Bon, cette sorte d'inversion, cette vision en négatif sur ce sujet, ben, c'est assez révélateur de ce qu'est son point faible, le régalien, il me semble. D'ailleurs, au total, le texte que nous publions dit beaucoup de son état d'esprit.
Et sur la prochaine échéance présidentielle ?
Oui, je suis un optimiste de la volonté, dit dans une formule élégante le chef de l'État, qui ajoute « Si nous ne cédons rien de l'ambition de transformation que les Français ont portée au pouvoir en 2017, traduisez, si nous reprenons le fil des réformes et l'esprit de ma première conquête, alors les unes de journaux en 2025 pourront faire état de notre renaissance. » La renaissance, avec un R majuscule, un terme qu'il a déjà employé pour parler du futur de l'Europe, oui. Et qui pourrait bien être un mot-clé dans sa conquête d'un second mandat, après la révolution de la première campagne, après les crises multiples du premier quinquennat. Bon, voici donc peut-être, selon Emmanuel Macron, le temps de la renaissance.
Merci Nicolas Bétou, votre édito tous les matins à 7h50. Un bon anniversaire au Journal L'Opinion, une aventure de presse à une époque où on dit qu'on ne lit plus la presse écrite. Je vous remercie. Merci. Et j'invite nos auditeurs, j'ai pas encore lu tout le cahier parce qu'il y a beaucoup de personnalités,
beaucoup de
mais je me suis mis de côté Bertrand Piccard, Laurent Berger, Éric Dupond-Moretti, Tony Parker aussi, voilà, ces personnalités scientifiques, penseurs que vous lirez ce matin et qui font cet exercice de se projeter en 2025. Il est 7h56.
C'était l'édito politique avec la Caisse d'Épargne. Mobilisé pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Et tous les matins, juste avant 8h, Nicolas Canteloup conseille à sa façon l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, à 8h15, Sonia Mabrouk reçoit l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner. Et c'est Emmanuel Macron, tiens, qui voulait lui dire un mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard. Ça va, vous n'avez pas de promo à faire pour votre garage ou Monsieur Cabrol pour son club de rugby, puisque Monsieur Bétou fait son promo pour son journal.
Je trouvais que c'est un peu voyant. Hein.
Un petit peu.
Allez, c'est grâce à vous. C'est allez, grâce à vous.
C'est vrai. Ouais. Vous êtes gentil, vous retombez sur vos pattes. Allez, dites donc. J'ai regardé la programmation là, pour vos invités. C'est assez éclectique hein, depuis lundi. Donc, un ministre, un philosophe, un médecin, un ambassadeur turc. Vous allez boucler la semaine avec quoi ? Un rabbin moustachu, un poète norvégien, un général turkmène ? Bon, alors, au sujet de Ali Onaner, effectivement, j'ai un mot à lui dire, un mot en turc. Galatasaray, voilà. Voilà, oui, mais j'ai regardé du foot toute la soirée, donc c'est mon seul mot en turc que j'ai. Mais comme en même temps, j'ai rien à dire de plus au pouvoir turc, j'allais pas en apprendre plus. Remarquez, si je suis honnête, de leur côté, ils m'écoutent pas, donc dans un sens, c'est bien foutu. Au moins, quand le dialogue est quasi rompu, la diplomatie gagne en simplicité, voyez-vous.
C'est un ambassadeur turc. Alors, Mathieu, c'est Charles. Je vais chanter une petite chanson. Pour l'ambassadeur turc, 3 et 4. Dieu soignera ton sol meurtri pour toi, Arménie. Non ? Ça passe pas ? Non, moi qui ai toujours voulu chanter l'Arménie à un ambassadeur turc de mon vivant, je peux donc même pas le faire de mon mourant.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille l'invité politique de la matinale, l'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner, à 8h15 tout à l'heure. Merci Nicolas, à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de Presque. 7h58, à tout de suite avec Laurent Cabrol pour la météo.